On est dans Apocalypse, chapitre 19, et merci d'être patient avec moi, de vous permettre de communiquer ces quelques éléments-là, parce que des fois, j'ai toujours peur que nos communications restent juste des informations. Et ce n'est pas juste des informations, parce qu'on est une famille, et tout ça a un sens et lié les uns avec les autres. Tout qu'un chapitre qui est devant nous, et en pensant à ce chapitre-là, j'ai une histoire justement qui me semblait intéressante dans l'introduction. Vous savez, il y a... de cela, 2050 ans, une grande bataille a été faite. Et l'homme qui a vaincu cette bataille a dit ces fameuses paroles, et peut-être quelqu'un se souvient quelles sont ces paroles. Qui c'est? Vini, vidi, vici. Ah, j'ai entendu, oh, ça c'était la plupart des boomers qui ont eu du latin, hein? Astérix et Obélix, ça aurait pu, effectivement. Hein? Oui, oui, c'est pas loin en bébite, hein? C'est quoi que je viens de dire? Jules César qui dit, je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Et vous remarquez le triple je. Le triple je, n'est-ce pas? Et ces paroles sont connues dans le monde entier, évidemment, des paroles historiques. Mais peut-être des paroles que vous connaissez moins bien. 1700 ans plus tard, il y a environ 350 ans, une bataille que vous connaissez, vous et moi, beaucoup moins, au milieu de l'Europe, alors que les Ottomans envahissaient une partie de l'Europe. Et vous savez qu'une partie de l'Europe est encore traumatisée de cette occupation des Ottomans à une grande époque importante. Et ils étaient en train d'attaquer Vienne, donc en Autriche. Et c'est le roi polonais, celui qui deviendra du moins le roi polonais, Jean III Sobieski, qui va venir avec 25 000 hommes à la rescousse du roi de l'Empire allemande pour venir l'aider à combattre. Et ils ont une grande victoire à cause de sa contribution. Et c'est à lui que va être donné le titre, évidemment, de cette victoire, évidemment, importante. Et il va même avoir, à ce moment-là, ce roi polonais, devenir audience auprès du pape de l'époque, Innocent XI. Et il va le féliciter, évidemment, pour sa victoire. Oui, on aime tout ce nom-là, hein, Innocent. Innocent, oui, ça fait toujours drôle comme nom, mais bon, c'est le nom de plusieurs papes. S'il y en a un 11e, c'est parce qu'il y en a eu 11 avant, hein, 10 avant. En une grande bataille, on lui donne la victoire, évidemment, puis on le félicite, comme tout grand chef militaire. Et vous savez qu'il y a des grands arcs de triomphe et toutes sortes de choses qui ont été construites pour souligner les grandes victoires. Et à ce moment-là, quand le pape va le féliciter, il dit ceci, lui, un peu différemment. « Je suis venu... J'ai vu, Dieu a conquis. » Tout à coup, comme dirigeant de la chrétienté, il avait un sens différent que sa victoire avait été aussi orchestrée par l'aide de Dieu et dans le souverain contrôle de Dieu qui protégeait l'Europe de l'Empire ottoman qui s'étendait. Il en sera aussi, vous savez, pour la dernière bataille. Dans les derniers jours, celle qu'on va regarder aujourd'hui. Dieu détruira l'église babylonienne de l'époque, prostituée, décrite dans le chapitre 17 et 18, juste avant son retour. Le Seigneur viendra, le monde verra, et Dieu va conquérir. Le défi, vous savez, celui de prêcher ce texte aujourd'hui, c'est toujours le même lorsque j'arrive à des textes qui parlent du retour du Seigneur. Vous et moi devons chaque jour livrer un grand combat, sans s'en rendre compte, et c'est pour ça qu'on le perd souvent, celui de garder les yeux sur la victoire de Christ et que nous sommes dans l'anticipation de ce retour imminent. Mais tout autour de nous est là pour nous distraire, pour nous occuper, pour nous préoccuper, pour avoir des objectifs différents et toujours mettre derrière nous le fait que le Seigneur Jésus peut revenir n'importe quand. Le fait de me rappeler que je suis un enfant de Dieu et que ma vie est en fonction de son retour et que j'ai une mission entre-temps. C'est la raison pourquoi on perd la bataille, souvent au quotidien. Parce que ça nous sort des yeux complètement. On oublie qu'on nous sommes en guerre spirituelle. Et que c'est une réalité. Mais nous, on vit dans la louate nord-américaine, dans le confort de nos maisons. C'est une petite panne d'électricité. Quelle angoisse, quelle épreuve, quel tourment, quel supplice. Que c'est terrible. parce qu'on est si douillet dans notre confort nord-américain. Amen. Une petite épreuve. Puis, oh, on chiale, on chiale, on chiale. Puis les Québécois, tu sais, on a une réputation. Hein? On a le chialeux facile. Hein? C'est un piton qui vient automatiquement. Et on oublie que oui, il y a des gens dans le monde qui ont des pires situations que nous, évidemment. Mais on oublie que tout ça n'est que temporaire. Mais le temporaire devient comme permanent dans notre esprit, devient ce qui prend toute notre inquiétude, notre préoccupation. Et on oublie qu'on est en guerre spirituelle, qu'on est en train d'attendre le retour imminent du Seigneur et qu'on veut être prêt. Et des textes comme ça sont là pour nous le rappeler, mais même en les prêchant, ce que je remarque, c'est difficile pour nous de les saisir. C'est difficile pour nous que ça nous rentre vraiment dedans et que ça reste. Et c'est le défi, je ne peux pas le faire en moi-même, je compte sur le Seigneur de le faire dans chacun de nos cœurs. Et j'espère que certaines des illustrations que le texte nous soulève, des images, que je puisse les soulever de telle façon aussi à nous les aider à les intégrer, les images qui sont dans le texte. Parce qu'évidemment, les images disent 1000 mots, parfois beaucoup plus que toutes les explications qu'on pourrait dire sur le combat qu'on doit relever. Remarquez les images qui vont être dans le texte et j'espère que ceux-ci vont nous aider à absorber et vraiment intégrer dans notre cœur l'importance de vivre chaque jour avec son retour et que son retour est imminent, mais dans le temps de Dieu, il est déjà fait. C'est une certitude. Pour nous, c'est une attente. Mais dans le temps de Dieu, c'est déjà fait tout ça. Il fait juste nous informer gentiment pour nous y préparer. Et chapitre 19, vous savez, est important parce que là, on transite. On termine la tribulation par le retour du Seigneur, ces années de supplice, et ça va ouvrir au règne terrestre du Seigneur Jésus-Christ qui va être sur terre pendant 1000 ans. Et on va en parler au cours des 2 prochaines semaines, de ce règne de 1000 ans dans le chapitre 20. Qu'est-ce que c'est ça, ce règne de 1000 ans et les opinions qu'il y a là-dessus? Et qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi c'est important? Ce règne de Christ sur terre, littéralement, dont l'Ancien Testament nous parlait et qui s'est devenu plus clair par ce texte du Nouveau Testament. Mais allons lire quelques versets. Juste avant, je vous donne un résumé de ce qu'on va regarder ce matin, un parcours, un peu une map de ce qui s'en vient. Premièrement, on va réitérer la grande joie qu'on est invité à avoir. Et là, on va voir la scène céleste d'une grande joie, d'une grande célébration du jugement de Dieu sur la grande prostituée du chapitre précédent. En fait, ces quelques versets-là sont finalement la conclusion de ce qu'on a lu de la destruction de la grande prostituée au chapitre 17 et 18. Ensuite, il y a, à l'arrivée du Seigneur, un festin à ce moment-là qui se fait. Un festin dit de l'agneau. Ensuite, le second retour du Christ se voit décrit en gloire avec le cheval blanc sur lequel il monte. La bataille d'Armageddon, la dernière bataille qu'on a été déjà décrit, mais qui là, ici, va être décrit avec la présence de Christ. Et qu'est-ce que Christ va faire dans ce grand dîner de noces, ironiquement ici? Et finalement, une condamnation à la fin de tous les participants clés, les dirigeants, donc le faux prophète, l'antichrist, toute son équipe qui va être finalement jugée éternellement. Et donc, on commence ce chapitre avec une grande célébration de joie. Et remarquez bien, qu'est-ce qui cause cette joie? On va lire quelques versets, après quoi on va prier. On avait l'impression, c'était comme s'il y avait une grande voix qui était comme celle d'une grande foule qui va déclarer ceci. « Alléluia, le salut et la gloire et la puissance à notre Dieu, car ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée laquelle corrompait la terre et de sa prostitution, il a vengé le sang de ses serviteurs de sa main. » On va prier. Seigneur, on vient de lire ta parole, ces 2 premiers versets, et on réclame, Seigneur, on te demande, aie pitié de nous, Seigneur, tu connais la fragilité humaine, et tu connais notre défi de comprendre, de saisir, Seigneur, ce retour imminent qui est tien. Tu es venu une fois, Seigneur, et les gens n'ont pas pris au sérieux ta venue. Et tu as annoncé que tu reviendrais une deuxième fois, et les gens sont encore en train de ne pas prendre au sérieux, Seigneur, ton retour. Pourtant, on est en l'an 2022, après Jésus-Christ. Ça paraît tellement loin qu'on peut même en douter. Nos contemporains doutent, Seigneur, que tu es venu une première fois, combien plus une deuxième. Seigneur, et même dans le cœur des croyants, il devient difficile parfois de se rappeler qui nous sommes et qui nous attendons réellement. Seigneur, Rencontre nos âmes ce matin qui ont besoin de toi, besoin de perspective. Donne une vision d'ensemble, Seigneur, une vision d'avenir, une vision qui va nous aider pour vivre le présent. Nous avons besoin de toi. Parle-nous par ta parole. Nous le demandons dans le précieux nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Déjà ici, on nous dit qu'il y a une vengeance de Dieu. Les gens au chapitre 6, vous vous rappelez, ils demandaient, « Seigneur, venge-nous! Notre sang coule, on est traité comme de la vermine, on est massacré, on est égorgé. Fais quelque chose. » Il dit, « Oui, reposez-vous en attendant, ça s'en vient, patience, il reste encore quelques affaires à arriver, je m'en occupe. » Et là, il est en train de le faire, cette vengeance saine, sainte vengeance, contrairement à la nôtre qui est mélangée de colère, d'égoïsme et de toutes sortes de choses dans notre imperfection. Dieu exerce une vengeance parfaite. En réponse à ses serviteurs, ceux qui ont vécu, qui ont persévéré à travers les moments difficiles, il dit, je m'en viens, je vais répondre à ça. Je fais justice parce que je vous aime, parce que je vous ai promis quelque chose, parce qu'il va y avoir des réprimandes pour ceux qui auront maltraité mes enfants, comme ceux qui vont les bien traiter, auront des récompenses aussi. Ça va des deux côtés. Et donc, au verset 3, il continue. Et une seconde fois, il dit « Alléluia », donc une deuxième fois. « Et sa fumée est montée pour les siècles des siècles », évidemment la fumée du jugement de la grande Babylone. « Et ils tombèrent les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent devant Dieu, celui qui était assis sur le trône, disant « Amen ». Alléluia. Donc, c'est la sixième fois qu'on voit une scène dans l'Apocalypse, qu'on voit ses ancêtres, ses anciens en fait, qui représentent l'Église, les croyants qui sont récompensés, qui sont dans les cieux, qui représentent évidemment l'Église couronnée, récompensée et qui adore le Seigneur dans les cieux, et ces quatre êtres vivants qui représentent évidemment ces anges puissants qui sont sous la gouverne de Dieu, qui agissent pour lui aussi, les quatre dimensions de son ministère qu'on a vu déjà dans le chapitre 4 et 5 de l'Apocalypse. Et un autre scène nous vient ici d'adoration dans les cieux. Imaginez si dans les cieux, ceux qui sont parfaits, ces anges, même eux, voient l'importance de se mettre à genoux, de se prosterner, de montrer respect et révérence au roi des rois. Combien plus nous qui sommes imparfaits, n'est-ce pas? Pécheurs ont besoin de fléchir le genou et tomber face contre terre, reconnaissant notre indignité devant lui, sa supériorité, sa divinité, sa seigneurie sur nos vies, la grandeur de celui-ci et que nous sommes que créatures qui est c'est juste normal. Je suis une créature. C'est normal que je courbe les chines devant mon maître, n'est-ce pas? Pourquoi c'est si dur pour la créature de courber les chines devant son maître? Pourquoi est-ce si dur? Notre cœur rebelle. On ne veut pas se soumettre. Pourtant, c'est juste du gros bon sens. Hein? Créature, créateur. Mais notre désir d'autonomie, l'illusion de la distraction qui est autour de nous est tellement fort dans nos désirs qu'elle mène notre volonté continuellement. Quel combat acharné on doit relever. Et là, on voit le Seigneur ici qui vient à la réponse de tout cela. Et on voit ici aussi, un peu plus loin, et une voix sortie du trône disait encore une fois, « Louez notre Dieu, tous les esclaves. » En fait, j'aurais pu le traduire, serviteur, mais j'aime ça, moi, traduire le mot serviteur, esclave, parce que c'est le même mot, évidemment. Et c'est ce qu'on est appelé des esclaves de Dieu, des serviteurs. Ah, serviteur, ça paraît moins choquant, Joël. J'aimerais mieux le. T'sais, non, non, on est des esclaves, hein, en bon québécois. Un esclave, tu sais, là. Puis là, c'est pas juste je fais des serviteurs. Non, non, je suis esclave. Je suis sa propriété. C'est normal que Et puis, il ne paye pas. C'est juste normal que je le serve. Je suis sa propriété. On est ses esclaves. Et c'est le nom utilisé par Paul pour décrire les serviteurs de l'Éternel. On est des esclaves de Dieu. Rappelons-le nous. C'est ça notre identité. Et c'est un privilège d'être un esclave du Dieu Tout-Puissant. Parce que soit on est esclave de lui, ou soit on est esclave du diable, d'un très mauvais maître, dont on va connaître l'issue à la fin du chapitre. T'es l'un ou t'es l'autre, tu sais. Peut-être que tu trouves ça choquant ce que je dis ce matin. Hein. Mais t'es l'un ou t'es l'autre. La Bible est claire, Jésus était clair. Tu sers un ou tu sers l'autre? Tu ne peux pas avoir les deux. Quand tu dis que j'ai les deux, ça veut dire que tu as l'autre. C'est ça que ça veut dire. Tu n'as pas compris quelque chose? Ah oui, on peut récidiver, puis demander pardon, puis revenir. C'est correct, je ne parle pas de ça ici. Mais il y a 2 mètres seulement. Et là, il dit, louez notre Dieu, tous ses esclaves, ceux qui le craignent, non, ceux qui ont respect pour lui, une grande crainte, reconnaissant sa grâce, les petits et les grands. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme une voix d'un eau nombreuse. On a vu ça dans le chapitre 1, comme si on était à côté de la chute Niagara, une voix puissante, une voix qui impose le respect, qui te fait reculer tellement qu'elle est intimidante. Une voix forte, de tonnerre, disant « Alléluia, car a régné le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. » C'est écrit littéralement pour ça. Je l'ai traduit le plus littéralement possible du texte original pour l'apprécier d'une lecture un peu différente. Dieu est louangé ici. Ben, juste mentionner premièrement l'image. Notez bien ici le mot « comme » qui revient à quelques reprises. Il veut nous montrer que la voix ici qui sort, qui annonce ça, là, qui nous invite à la louange, est une voix excessivement puissante. Et il va le décrire de différentes manières, « comme » pour nous montrer l'importance de la proclamation qui est donnée ici. Écoute la voix, elle est tellement forte que quand tu es à côté des chutes Niagara, là, tu ne peux pas regarder ailleurs. Elle est tellement forte que tu ne peux pas entendre d'autres voix. Hein? Quoi? Pendant à côté des chutes Niagara, vous allez voir, on ne s'entend pas tellement que c'est fort. En plus, il ne faut pas aller trop proche parce qu'il y a toute l'air humide qui te tombe dessus comme de la pluie. Parce qu'une voix forte comme ça impose le respect et l'écoute attentive. Et c'est ce que Dieu veut faire par cette voix-là. Imaginez cette voix forte qui répète ces vérités-là. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia. Et ici, vous savez, on a un événement assez particulier. C'est la seule place dans tout le Nouveau Testament qu'on a un tel élan d'invitation à la louange. Nous avons la plus grande invitation à la louange du Nouveau Testament avec cette invitation-là de louer l'Éternel ou Alléluia, qui apparaît ce mot hébreu qui veut dire louer l'Éternel dans les psaumes qu'on voit continuellement et qui là ici est utilisé littéralement dans le texte grec traduit du Nouveau Testament. On prend le nom hébreu, Alléluia, Alléluia, on répète cette vérité 4 fois, louer l'Éternel, devant son jugement saint et parfait, redoutable, effrayant. Louer l'Éternel. Il mérite notre louange. M. Ryrie l'a résumé comme ceci, la louange. Il dit d'abord la justice et de ses jugements, particulièrement illustrés dans le jugement de Babylone, la grande prostituée, au verset 2. La raison de son jugement était son immoralité et aussi comment elle contaminait par son immoralité tout le monde. Sa punition, elle est éternelle et assurée par la phrase « La fumée de cette ville s'élève au siècle des siècles pour toujours ». Le jugement, il est permanent, il est éternel. Deuxièmement, louer le Seigneur pour le fait qu'il règne. Notez bien, souligné, il règne. Entre-temps, les 24 vieillards et 4 vivants, êtres vivants, se sont unis dans un chant de « Alléluia, Alléluia ». Et une voix du ciel est appelée à des louanges supplémentaires encore. On ne peut pas trop louer Dieu. Et vous savez ce qui arrive et pourquoi c'est tellement bon de louer Dieu? Parce que lorsqu'on loue Dieu, nos yeux sont sur lui. C'est pour ça que c'est bon, la louange de Dieu. C'est pour ça qu'on chante à l'Église. C'est pas parce que c'est un acte religieux. Ça amène nos âmes, nos yeux, notre être tout entier à participer, à lever les yeux vers Dieu et regarder vers lui comme source d'adoration, comme source d'espérance, comme source de priorité dans ma vie, comme source de « c'est mon phare ». On lève les yeux vers lui et là, tout à coup, notre attitude change. On devient plus humble. Vous avez remarqué? On devient plus sensible. Vous avez remarqué ça? Les moments où je deviens le plus sensible, c'est soit devant une grande faute ou soit dans un temps de prière. Et là, il y a des prises de conscience qui se font. Et là, notre cœur devient bouleversé. N'est-ce pas? C'est drôle. Quand je suis dans cet état-là, je ne pense pas à mes finances. Mes problèmes changent d'importance. Vous avez remarqué? Je retrouve la paix que j'avais perdue par mon inquiétude de mes finances, mes inquiétudes d'une relation qui est difficile. Quand je suis en train d'adorer, j'oublie plusieurs problèmes d'inquiétude dans ma vie qui m'absorbent par des choses au travail qui se passent. Ce n'est pas parce que ces choses-là, on ne doit pas les adresser. Mais qu'aussitôt que nos yeux sont sur Dieu, en train de l'adorer, de reconnaître sa grandeur, son importance, comment il est bon, toutes ses œuvres qu'il a faites, toutes ces choses-là que je fais, calme mon cœur, me ramène à qui je suis, une créature d'un Créateur merveilleux qui mérite toute la confiance du monde que je peux lui donner. Il la mérite. Et toutes les choses changent. C'est pour ça que c'est tellement important. Je continue. Maintenant, la noce. Il dit, « Réjouissons-nous et exaltons et donnons-lui gloire, car est arrivée la noce de l'agneau, par le fait qu'il arrive. Et sa femme, ou son épouse, est préparée. Elle est déjà préparée. Et il lui a donné de se revêtir. » Alors, donc, c'est lui qui lui a donné de se revêtir de fin lin brillant. C'est là que le mot lampe, hein, brillant, qui brille. Pur, car le fin lin, sont les œuvres de juste, sont les œuvres justes des saints. C'est intéressant. Déjà, on lance des signaux sur qui est cette épouse. C'est qui? C'est l'Église. L'image de l'épouse est utilisée à plusieurs occasions, mais particulièrement par Paul, n'est-ce pas? Dans le chapitre 5 d'Éphésiens. Et l'image de mariage, de noces, pour parler du retour du Seigneur, pour parler de l'invitation au retour du Seigneur, est une image très courante que Jésus utilise particulièrement dans l'Évangile selon Matthieu. Évidemment, adressée plus aux Juifs, l'image de célébration de noces, etc., vient à plusieurs occasions. Et le Seigneur décrit son épouse de cette façon-là. Et là, on va parler de son vêtement, de son apparence, etc., pour décrire, évidemment, qui elle est. Et là, déjà, l'idée que c'est les œuvres des saints, on comprend ici que c'est l'Église, parce que les saints sont les croyants, n'est-ce pas? Et dans Éphésiens, justement, celui qui parle le plus de l'Église comme étant l'épouse, Paul, va adresser les croyants comme étant des saints une quinzaine de fois. C'est la petite épître et c'est le livre du Nouveau Testament qui parle des croyants comme étant des saints le plus souvent dans le Nouveau Testament, outre le livre de l'Apocalypse. Donc, très significatif, l'idée ici qu'on la voit ici préparée, pure par ce que le Seigneur a fait, et aussi, elle porte comme habillement ce qui est beau, ce qui est resplendissant, ce qui est blanc et pur, correspondant à la description qu'on va voir au verset 14 du linge de Jésus lui-même aussi, la même pureté. Vient des œuvres de justice qui ont été accomplies parce que le Seigneur a changé dans la vie des gens et tout à coup, ils ont fait des œuvres qui manifestaient ce que l'Esprit de Dieu fait à travers eux. Des œuvres qui ne sont pas pour moi, des œuvres qui ne sont pas pour paraître, mais des œuvres qui ont juste été le fruit de ce que découle ma foi et l'Esprit de Dieu qui est en moi. Des œuvres du juste par un changement de nature en nous. Et tout à coup, ça fait partie de l'habillement, les œuvres. C'est pas beau, ça? Ça veut dire qu'aucune de nos œuvres ne sera oublié. Le Seigneur remarque chacune des œuvres faites par son esprit, par ses enfants, lorsqu'on a répondu à une réponse mauvaise, on l'a répondu bien, on ne s'est pas défendu. Lorsqu'on a aidé sans regarder autour que personne nous... Puis on l'a fait juste spontanément par une réponse de l'Esprit Saint pour aider quelqu'un. Toutes les fois qu'on fait des gestes qui sont le fruit de l'Esprit, chacune de ces œuvres-là est collectée, n'est pas oubliée par notre Créateur. Tout cela n'est pas en vain. Et fait partie de l'habillement de cette épouse. Et là, s'il le décrit comme ça, c'est parce que c'est important. Il dit, Jean, ceci. Les paroles de Jean sont intéressantes. Dans Jean, chapitre 3, verset 29, il dit, « Celui qui a la mariée, c'est le marié. » Bon, ça va jusqu'ici, on l'a compris. « Mais l'ami du marié, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. » Qui annonce sa venue, qui est heureux de l'annoncer sa venue. Ainsi donc, cette joie qui est mienne est parfaite. Il dit, moi, là, je suis celui qui annonce, puis qui dit, il s'en vient. Puis pour moi, là, c'est tellement un grand privilège. Il utilisait cette image-là d'époux marié de noces comme son rôle d'annonceur, comme un privilège, la joie que Jean vivait. Imaginez, Jean était là pour la première venue. Là, ici, on parle du retour du Seigneur. Les saints sont tous là. C'est fini avec l'ennemi. Il y a une victoire qui se fait. Et là, c'est l'Église tout entière qui l'a imaginé. D'autant plus l'importance ici, bien au-delà de ce que Jean a décrit. La noce de l'agneau, évidemment, met en avant tout l'importance de l'agneau. D'habitude, on va parler beaucoup, c'est le jour de la femme, c'est le jour qu'il y a une mariée, c'est elle la princesse. Et tout est beaucoup centré sur la femme parce que c'est elle qui est belle, c'est elle qui va être le mieux habillée, c'est le centre de l'attention. Mais dans ce mariage-là, c'est un peu différent. Malgré qu'elle est belle, qu'elle porte des vêtements incroyables, le centre de l'attention, c'est que c'est les noces de l'agneau. C'est l'agneau qui lui permet d'être belle. C'est l'agneau qui le blanchit. C'est l'agneau qui est son identité entière. C'est les noces de l'agneau. C'est lui le centre, contrairement à nos mariages terrestres, où est-ce qu'on met le centre pour cette femme qui est la princesse de l'occasion. Différent, n'est-ce pas? La noce de l'agneau. Et continue en disant, non, je devance mes notes avant de lire ça. Je voulais vous rappeler une image, peut-être pour vous aider à apprécier ici l'importance de cette noce de l'agneau. Je ne sais pas si vous avez un souvenir très, très détaillé, pour ceux qui se sont mariés, de votre jour de noces, du mariage. Moi, je me souviens le jour où je me suis marié avec Julie, c'était le 17 octobre, on a célébré 24 ans récemment, en 98, et on était une grande église, l'église Bethesda, une église haïtienne à Montréal. C'est là qu'on s'est mariés, Julie et moi. Et il y avait entre 500, 600, 700 personnes dans la salle. J'ai beaucoup de familles. On est 150 d'un côté, 150 de l'autre côté. On avait été dans quelques églises. Fait que c'est compliqué. Fait qu'il fallait tout inviter tout le monde à l'époque. Sinon, ça a invité une partie, ça aurait été une insulte. On a invité tout le monde. Mais je me souviens lorsque Julie est entrée avec son père, Normand. De loin, c'était comme correct, il y avait une émotion, mais le plus qu'elle approchait, tout à coup, là, je devenais nerveux. Il y en a qui ont vécu ça? Hein? T'es tout seul en avant ou t'es avec les best-men, mais tu ne regardes même pas, là, t'es juste là. Tu as bien avoir une armée en arrière, tu te sens tout seul en avant, tu vois tout ce monde-là, puis tu la vois arriver, puis tu n'as pas vraiment le goût de regarder les autres, tu la vois juste elle arriver, là. Puis elle est habillée de manière extraordinaire. Puis tout est là autour avec les fleurs vous dérangez pour rendre aussi ce jour-là. Puis l'impression d'être omnibulée par la grandeur de ce jour-là dans notre vie, n'est-ce pas? Et là, plus qu'elle approchait, plus j'étais nerveux. Plus elle approchait aussi, plus il y avait une émotion forte. Et à mesure qu'elle avançait, qu'elle était rendue dans la rangée à mi-chemin, là, il y avait des larmes qui venaient à mes yeux. J'étais un peu gêné. J'étais en train de contenir. Là, qu'est-ce que je vis là? Là, j'étais tellement épris de la situation. Pourquoi? Ben oui, elle était belle, c'était évident, c'est la première chose à mentionner. Mais outre ça, c'est la grandeur de cette expérience de savoir qu'on va être des partenaires pour la vie. Il y a un élément aussi de « enfin ». Vous savez, on a anticipé, il y a un élément dans la cérémonie de « enfin, ça arrive ». Il y a une sorte de grande satisfaction aussi qui nous envahit de satisfaction, un peu comme aussi l'arrivée d'un bébé, n'est-ce pas? Et que là, il sort, on le met sur le ventre de maman, il y a un « on est épris d'une émotion tellement forte d'anticipation qui, là, accouche, littéralement. Et là, dans le mariage, elle arrive, puis là, ça va y être. Là. Il me semble aussi le pire moment, là, la plus grande stress, je ne sais pas s'ils ont vécu ça aussi, là, c'était au moment de l'embrasser devant tout le monde. Ah, je voulais mourir sur le tas, là. Écoute, le stress qui m'a monté, je vais l'embrasser devant tout le monde, je vais l'embrasser devant tout le monde, je vais l'embrasser devant tout le monde. Écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé en dedans de moi, là, mais c'était là, le summum du stress de ce mariage-là. Il y en a qui ont vécu ça aussi? Bon, c'est correct, je suis tout seul. Merci de me laisser tout seul en avant. Je me mets à nu, puis personne ne veut être solidaire avec moi. Ah, OK, merci Christian. Il y en a quelques-uns qui sont capables d'être connectés avec leurs émotions un peu, là. Mais je vous décris ça pourquoi? J'essaie de vous mettre dans cette scène que vous avez peut-être déjà vue, ressentie, vécue, pour parler ici de l'émotion ici du présent là, qu'on est supposé de voir, ressentir et percevoir. Enfin, l'épouse voit son époux. Enfin, elle va retrouver la paix pour toujours avec lui. Enfin, toutes ces années difficiles se ramassent là. Et lui, enfin, tout ce que j'ai donné pour elle, tout ce que j'ai sacrifié ces années-là, les voir, faire des erreurs, revenir, confesser, les gens que j'ai pardonnés, les bons coups, les mauvais coups de mes enfants, puis là, enfin, elle est là avec tout ça, là. Cette épouse-là, qu'il s'est préparée pour lui-même. C'est quelque chose, vous savez. Et un auteur le dit de cette façon-ci, mais en fait, juste à la préparation, il y a beaucoup de préparation qui va dans un mariage. Et quand on dit « elle a été parée », »,« elle a été préparée », On met du temps, on investit du temps, de l'argent, des émotions pour faire des décorations, des mois de temps, les robes, le banquet, les décorations, les fleurs, les répétitions et tout ce que vous voudrez. Le gâteau, la commande, etc. Et là, enfin, le grand jour arrive, elle est présentée à l'époux après tout ce temps, tout ce grand labeur de puissance et de cœur investi afin qu'elle soit fin prêt. Et un auteur le dit de cette façon, l'Église est la fiancée de Jésus-Christ. Il l'aime d'un amour sacrificiel et éternel. Et le joyeux festin des noces de l'agneau suivra, comme il est décrit ici. Au moment où il va venir, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Il est mort pour la racheter. Et un jour, Christ reviendra sur terre pour prendre son épouse avec lui. Et le joyeux festin des noces de l'agneau va suivre son retour. Comme membres de l'Église, nous sommes l'épouse de Christ. Il nous aime. Il n'a de yeux que pour nous. Et nous, avons-nous des yeux que pour lui? Dieu aime chacun de nous comme s'il n'avait qu'un seul d'entre nous à aimer, a dit saint Augustin. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience ici, cet amour persévérant, total, qu'il démontre à notre égard et dans cette grande célébration-là. Et on dit aussi, et un autre ange, il me dit, écris ce que tu vois là, écris-les. Heureux ceux qui ont été appelés au dîner de la noce de l'agneau. Il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Et là, on voit la réaction, il va tomber devant les pieds de celui qui lui annonce ça, pour se prosterner. Et là, il dit, garde-toi de faire ça. Je suis ton co-serviteur. Moi aussi, je suis un esclave de Dieu comme toi, comme ange, là, comme porte-parole. Adore-moi pas. Il va le refaire encore une fois dans le chapitre 22, avoir la même réponse. Il dit, je suis ton co-serviteur et de tes frères. Et qui garde le témoignage de Jésus. Prosterne-toi devant Dieu. En effet, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et je m'attarde ici au choix, le mot témoignage. Je n'ai pas mis le mot grec ici pour le fun, pour paraître intelligent. C'est parce qu'il est vraiment intéressant comme mot. C'est de là qu'on a le mot martyr. Hein? D'être un témoin, d'être un martyr de Christ. Il y a un mélange d'émotions quand on lit ça. Parce que ben, je ne veux pas être un martyr. Oui, mais toutes les fois que tu es témoin de Christ, tu es un marturian, un marturios. Tu es en train de rendre témoignage en grec. C'est comme ça qu'on le dit. Et ultimement, c'est possible que parfois en rendant témoignage, tu sois aussi amené à rendre l'âme en rendant témoignage. D'où notre notion d'un martyr qui vient de là. Souvent, c'est des gens qui ont rendu témoignage au point de devenir des martyrs. Mais ces gens, c'est intéressant, ils disent, c'est qui tes co-serviteurs? Les gens qui disent ça, c'est des gens qui rendent témoignage. On a ici dans un verset, une sorte de définition de c'est quoi un chrétien. Quelqu'un qui rend témoignage. Pas de lui-même, évidemment. Qui rend témoignage de celui qui l'a transformé. Rendre témoignage. C'est ça qu'on fait. Quand on est ici, ce matin, on est en train de rendre témoignage de l'importance du Seigneur. On rend témoignage que ceux avec qui je me rassemble, qui professent la foi, sont mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ. On rend témoignage en ce premier jour de semaine qu'on croit, nous autres, que Jésus est effectivement mort un premier jour de semaine, ressuscité des morts. On rend témoignage quand on se comporte différemment dans la semaine, que notre langage, nos actions se démarquent des autres. Pas parce qu'on est plus intelligent, non, non. Le Seigneur, allez pas vous vanter, le Seigneur a pris les gens les moins intelligents du monde pour les amener à lui. Ce n'est pas l'intelligence qui est l'enjeu. Et Paul va dire, ça paraît fou pour le monde, parce que le Seigneur n'est pas allé chercher les docteurs, les intelligents, les gens, toi disant en haute. Non, non, il a pris les gens ordinaires. On est des gens ordinaires. Des gens ordinaires qui ont le privilège d'avoir compris, saisi et répondu à l'invitation de Dieu. Pourquoi nous, au lieu d'autres? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est correct comme ça. Je sais juste que je suis privilégié. Que je ne le mérite pas. J'ai compris. Puis un jour, j'ai répondu. Merci Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi d'autres ne répondent pas à un si merveilleux message. Mais mon rôle, c'est de partager, rendre témoignage. Et voilà ce qui démarque les co-serviteurs que l'ange souligne ici. Et j'avance à notre prochaine section sur le retour de Christ. Et là, on va lire quelques versets en trois sections sur la description du retour du Seigneur Jésus-Christ. Christ lui-même est là. Et je vis le ciel ayant été ouvert encore une fois. Et voici un cheval blanc qui descend directement du ciel. Celui assis sur lui s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice, contrairement à tous les combats d'injustice qu'on a vus dans le monde, contrairement à tous les combats d'injustice qu'on voit même maintenant pour contrôler le territoire de quelqu'un d'autre, pour exercer du pouvoir, pour avoir plus d'argent. Et là, on pense tout le temps, évidemment, à la guerre qui se passe présentement entre l'Ukraine et la Russie. Mais écoutez, il y a des guerres bien avant ça, puis il y en a bien d'autres dans le monde, et par le continent de l'Afrique a la majorité des guerres sur son continent. Et perd bien plus de monde encore. C'est une base, on en parle juste moins. Mais c'est bien présent, des guerres injustes partout autour de nous. Et là, ici, enfin, il y a une guerre juste qui va arriver. Une guerre juste qui va arriver parce que c'est le roi des rois. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Et sa tête, de nombreux diadèmes, ayant un nom qui avait été écrit, que personne ne connaît, sinon lui. Un nom qu'on n'est même pas capable de connaître. Mais déjà, les descriptions de qui il est nous disent beaucoup sur lui, parce qu'on nous dit qu'il est celui qui est assis dessus. Il est fidèle et véritable. Donc, fidèle veut dire qu'il est digne de confiance. Celui qui vient, il est fiable, contrairement à tout ce qu'on voit autour de nous. Il mérite que je lui fasse confiance. Il est source de stabilité, un repère. Et il est véritable, c'est-à-dire qu'il est source de vérité, contrairement à tout ce qu'on a aujourd'hui autour de nous, où on écoute des médias, puis il faut toujours filtrer, OK, ouais, mais lui et sa perspective, il manque des informations de l'autre côté, il faut que je prenne ça avec une pincette. Lui, il est véritable, il est la vérité complète, contrairement à tout ce qu'on doit filtrer dans ce monde-ci, sur la vérité, qui est galvaudée d'un bord et de l'autre avec plein de demi-vérités, puis des quarts de vérité, puis des tiers de vérité, qui ne sont pas la vérité. Ceux qui l'accompagnent, ayant été revêtus d'un manteau, ayant été trempés de sang, intéressant, et a été appelé son nom, la parole, un titre unique que Jean utilise, de Dieu. Et les armées dans les cieux, ciel, le suivaient sur des chevaux blancs, ayant été revêtus d'un lin pur. Donc, il est accompagné des croyants récompensés, purs comme lui, ayant les mêmes vêtements, faisant partie de son armée, qui l'accompagne pour venir exécuter son jugement sur terre. Le Seigneur est accompagné de ceux pour lesquels il s'est sacrifié. Son vêtement sanglant est une image saisissante, car c'est avant qu'il n'ait encore fait bataille. Un habit sanglant après une bataille, c'est normal. Un habit sanglant avant, non. Parce que ici, c'est parce que ceux-ci sont marqués du sang de l'agneau qui les a, évidemment, purifiés. Je vous lis ici deux textes que vous avez pour nous les rappeler. Matthieu, chapitre 24, c'est Jésus qui dit ceci, OK? Alors, le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, apparaîtra dans le ciel. Les mêmes paroles que ce qu'on vient de lire ici, que Jean reçut comme vision, identique. Tous les peuples de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme. Hein, j'ai vu... C'est le monde qui va voir. Le monde qui va voir. Tous les gens vont voir le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec les trompettes retentissantes. Ils rassembleront ceux qu'il a choisis, tous les élus des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Donc, cette idée de sa vie, décrit d'une manière que tout le monde va voir, proportionnellement à quand les disciples étaient là, ils l'ont vu monter, il dit, je vais revenir de la même façon, d'une manière visible que vous allez reconnaître et que ce ne sera pas un retour caché, contrairement à ce que bien des gens ont prophétisé dans les derniers quelques centaines d'années. Oh, il est arrivé là-bas. Oh, il est prédit, puis là, finalement, il n'y arrive pas. Quand il va venir, tout le monde va le savoir. Ce n'est pas une question. Tu n'auras pas besoin que quelqu'un te fasse le commentaire ou t'informe. Tu n'auras pas besoin de lire un journal non plus. Pour que tout le monde le voie. Son retour se veut un acte de grâce et de jugement en même temps, qui est universel. Thessalonicien va ajouter aussi en disant, et là c'est Paul qui dit, et de vous donner à vous qui souffrez du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges et sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est intéressant, hein? Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est ça le critère. et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont pour peine une ruine éternelle parce qu'ils ont refusé la bonne nouvelle éternelle. Loin de la présence du Seigneur, voilà la ruine éternelle, et de la gloire de sa force lorsqu'il viendra ce jour-là pour être célébré parmi les saints. Vous voyez le lien avec la louange qu'on vient de lire ici au début du chapitre. Et admiré parmi tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. Donc, on a les paroles de Jean qui nous décrivent ça. Jésus nous a dit les mêmes choses. Et on a les paroles ici de Pierre qui avait reçu du Seigneur la même chose et qui enseigne à l'Église le retour de la même façon. C'est clair. Ce qu'il fera, juger et régner. On dit ici, et de sa bouche sort un épée tranchante. Évidemment, c'est une image qui est reprise du chapitre 1, la première vision de Jésus. Et c'est aussi une image qu'on retrouve dans l'auteur du livre aux Hébreux qui parle de la parole de Dieu qui est tranchante. Hein? Le même langage est pour trancher entre ce qui est intranchable pour nous, entre même l'âme et l'esprit. De sa bouche sort une épée tranchante, afin que par elle, il frappe les nations qui ont eu beaucoup de temps pour se repentir, qui ont eu beaucoup d'évangiles, qui ont eu beaucoup d'opportunités, mais qui disent, comme on l'a vu déjà, « Ah, que les roches tombent sur moi, je ne veux tellement pas me repentir », qui ont refusé de se repentir de leurs œuvres alors qu'ils savaient que c'était un jugement de la part de Dieu, qui ont vu les tremblements de terre signer Dieu, qui n'avaient aucune contestation sur d'où ça venait, ils disaient « Je veux rien savoir, j'aime mieux mourir ». Il va les empêcher de mourir même, tellement qu'ils veulent mourir et pas se repentir. Et donc, ces nations-là, il va les frapper. Il les fera paître avec un sceptre de fer. Et le mot ici est intéressant, il va utiliser l'image de berger, comme dans le psaume 2, une image vraiment importante pour décrire le retour du Messie. Et il va parler d'une... D'habitude, un berger a un bâton de bois, n'est-ce pas? Et avec ça, il va corriger les brebis, les envoyer dans une bonne direction. Et même peut en arriver des fois même à casser la jambe d'une brebis qui n'arrête pas de toujours s'égarer pour l'empêcher et lui apprendre. Là, ici, il parle d'un sceptre de fer, un sceptre royal, un bâton maintenant de métal et qui, lui, brise. C'est un berger maintenant qui s'en vient juger. C'est intéressant le mélange de royauté et de berger ici utilisé dans l'image. Et on dit ici, pour décrire ce jugement-là, il lui-même foulera ou écrasera la cuve de vin. Dans une autre image de jugement, comme du raisin dans un pressoir qu'on écrase pour produire du vin, c'est l'image ici pour parler du jugement de la terre. Les fouler, les écraser. C'est graphique, les amis, c'est assez graphique ici. Dieu n'épargne pas les détails de l'ardeur de sa fureur ici, la colère du Tout-Puissant. Et voilà pourquoi. C'est parce qu'on a rejeté le Dieu Tout-Puissant, un titre utilisé régulièrement par Jean à travers tout son livre, Dieu Tout-Puissant. Mais s'il est Tout-Puissant, il devrait avoir toute soumission, toute obéissance. Il a tout pouvoir. C'est une folie de ne pas reconnaître notre Créateur. C'est pour ça que le jugement est si fort. On peut dire, ben voyons donc, Dieu est violent ici. Mais non, Dieu est patient aujourd'hui. Et il nous le dit d'avance le jugement pour qu'on évite ça, tellement qu'il est fin. Mais quand tu n'as pas voulu éviter ça, tu n'as pas écouté, tu n'as pas voulu reconnaître que dans ton cœur, ta conscience te dit qu'il y a un Créateur, mais que tu ne veux rien savoir. Mais c'est une fin juste, la Bible nous dit, devant le Tout-Puissant. Par faire le contraire, c'est de la folie. Et on dit finalement, à la toute fin, il a sur son manteau, sur sa cuisse, un nom ayant été écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Vous savez, cette notion-là de nom qui revient, il est appelé fidèle et véritable, il est appelé Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Chacun des noms veut nous apporter ici une notion importante de pourquoi on doit le suivre. Un nom qui est choisi moindrement est significatif. Et son nom en dit beaucoup sur lui. Il est le roi, mais de tous les autres rois que nous on connaît. Le Seigneur, que tous les autres seigneurs, il est le top des tops. Et en guise d'illustration, j'ai tombé sur l'histoire de ce fameux chant « Majesté ». Vous connaissez ce chant « Majesté, à lui la majesté ». À Jésus soit louange, honneur et gloire. J'ai trouvé l'origine liée à ce texte-là de ce chant. Il s'appelle Jack Hayford. Et il est allé en Angleterre en vacances en 1977 avec sa femme. Ils étaient en vacances et ils sont arrivés en plein dans les célébrations du 25e anniversaire de la reine. Donc, elle a commencé en 52, on est en 77. Et ils ont été marqués partout où ils allaient de voir la présence et les notes de la majesté, sa reine, partout autour d'eux. C'était tellement présent que tu ne pouvais pas aller nulle part sans te faire achaler par ces images de la présence partout dans le pays, dans tout le Commonwealth également, mais particulièrement en Angleterre, de l'omniprésence des célébrations pour souligner la 25e anniversaire de Sa Majesté, la Reine d'Angleterre, Élisabeth II. Et là, tout à coup, à un moment donné, il se promène en auto, puis il dit à sa femme, écris ces mots-là. Et il va écrire, alors qu'il est en balade, ça le saisit, « Majesté à lui, la majesté à Jésus, soit louange, honneur et gloire. » C'est ainsi que naquit ce chant, dans ce contexte-là, de cette présence de majesté qui était partout. Dans la Bible, Jésus est appelé souverain sacrificateur, prince de paix, agneau de Dieu, pain de vie, lumière du monde, bon berger. Mais le titre qui est peut-être le plus magnifique et qui inspire peut-être le plus le respect, c'est celui de roi des rois, seigneur des seigneurs. Il nous rappelle que sa puissance dépasse de beaucoup celle de tout dirigeant mortel. En outre, il évoque la splendeur du royaume ultime dans lequel il règnera éternellement. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que nous, qui connaissons Christ comme sauveur, sommes les enfants de ce roi, des princes et princesses du roi, des fils et des filles. Comment devrions-nous réagir? Le cantique de Hayford suggère ceci, « Exaltons et célébrons le nom de Jésus chaque jour. Dans tout ce que nous faisons, glorifions Jésus-Christ, le roi. Notre tâche première dans la vie est d'adorer sa majesté. Vous ne pouvez jamais louer Dieu plus qu'il ne mérite, vous savez. Jamais on va exagérer de l'adorer. Des fois, ah, t'en as fait trop. Non, ça n'arrivera jamais avec Jésus. T'en as fait trop. Ça n'arrivera juste pas. Le jugement. Les derniers quatre versets nous parlent maintenant du jugement dernier. Personne ne pourra échapper à cette dernière bataille. On dit ceci, « Et je vis la bête, les rois de la terre. » Donc, les rois qu'on avait décrits, qui avaient une armée immense qui allait traverser éventuellement l'Euphrate, cette bataille d'Armageddon, dans la vallée d'Armageddon, ces 200 millions de personnes, l'assèchement de l'Euphrate, une armée. On ne sait pas tout le détail, mais on a des grandes lignes qui sont là, qui là, ici, sur cette dernière bataille, qui ont réussi à avoir les rois de la terre, qui sont ligués ensemble et qui viennent combattre, livrer bataille. Ayant été rassemblés pour faire la guerre avec celui qui était assis sur le cheval avec ses armées. Imaginez, tu vois Jésus descendre de la terre, du ciel, excuse-moi. Jésus, il descend du ciel, puis tu t'en vas avec ton armée combattre contre un Jésus qui descend du ciel. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Jésus, il descend du ciel avec une armée. Puis l'être humain est tellement fou qu'une armée va vouloir l'affronter sur terre. Pensez-y un instant. Quelle folie! Mais oui, on peut être fou de même, les êtres humains. Voilà comment peut aller aussi loin notre rébellion contre Dieu. Que quand le Dieu des dieux, le roi des rois, le Créateur se présente, on décide de prendre les armes pour combattre contre lui quand on le voit descendre du ciel et que c'est évident que c'est lui. Bien, ça mérite ce qui va se passer après, cette folie-là. Et on dit, et la bête fut capturée. J'ai lu les mauvais versets. Je suis en train de vous lire le verset 19. Excusez-moi, j'ai mis la diapo là ici puis j'ai sauté de paragraphe. Et je vis un ange se tenant dans le ciel et il cria d'une grande voix disant à tous les oiseaux qui volaient au zénith, « Venez, rassemblez-vous pour le grand dîner de Dieu, afin que vous mangiez les chairs, évidemment, des rois et les chairs des chefs militaires et des gens forts qui sont là, la chair des chevaux et de ceux qui sont assis sur eux, les cavaliers, et la chair de tous les hommes libres et esclaves et petits et grands qui se sont mis dans cette guerre-là de fous. » Donc, on voit ici un massacre. On parle des oiseaux charognards qui vont avoir, évidemment, c'est eux autres qui vont avoir le gros dîner, le grand banquet, évidemment. Imaginez la scène. Personne ne va être épargné. Et là, on nous dit ici le conflit que je viens juste de lire, cette guerre où les masses viennent. Donc, il y a le conflit terrestre, sachant c'est qui. OK? C'est pas comme s'il est masqué, là. Ils savent c'est qui, et là, ils tiennent tête malgré tout. Donc, la folie. Ensuite, on dit, il y a une capture qui se fait. La bête fut capturée ou saisie, et elle, et avec elle, le faux prophète, donc les complices, celui faisant les signes devant elle, par lesquels il égarait la terre. Donc, on est dans cette période-là d'égarement. Outre celle qui va venir dans l'avenir plus intense. Ceux ayant reçu la marque de la bête et ceux qui se prosternaient devant cette image, cette icône, et tous les deux furent jetés vivants dans l'étang de feu, celui embrasé de soufre qu'on va décrire au prochain chapitre. Donc, il y a le conflit, il y a ici les captifs et il y a finalement la fin de la conquête. Et le reste, donc tout le restant des gens furent tués par l'épée. Ici, c'est la dernière fois que le mot « tuer » va apparaître dans le Nouveau Testament. Qui sortent de sa bouche, donc par cette épée-là, celui qui était assis, le cheval, et tous les oiseaux se rassemblèrent de leur chair, se rassasièrent, excusez-moi, de leur chair. Je fais souvent des petites erreurs de lecture comme ça avec ma dyslexie. Merci de ne pas m'en tenir trop rigueur. Vous savez, ce qu'on lit ici, c'est un carnage terrible. Et ce qu'on nous dit, c'est que c'est inévitable. Personne ne va s'en sauver. Alors que jusqu'à présent, les gens ont une liberté. Tout va se régler là. Et on va passer à une autre étape. On va terminer la tribulation et entrer dans une nouvelle ère. Il va venir sur Terre, mais sa venue va bouleverser le monde. Imaginez déjà ici, là, on a la moitié de la planète minimum qui a déjà été tuée par tous les jugements de la tribulation. Et malgré ça, l'autre moitié qui reste, parce qu'évidemment là-dedans, il y a beaucoup d'incroyants, majoritairement, beaucoup de croyants persécutés qui sont tués, mais même ceux qui restent vont tenir ici cet entêtement-là. C'est quelque chose, là. C'est quelque chose. Je vais vous laisser ce matin avec une pensée, une illustration pour vous aider à saisir tout ça. Évidemment, ici, le retour du Seigneur en gloire et sa victoire est maintenant complétée. On va passer à une nouvelle étape. Mais pour aider peut-être à saisir cette idée-là, de rappeler le jour de victoire. Évidemment, dans les grands pays du monde, on a toutes sortes de moyens pour se rappeler des grandes batailles. Ici, au Canada, on célèbre, évidemment, le jour du souvenir. Et pour nous, il est le 11 novembre parce qu'il a été institué après la Première Guerre mondiale. Et donc, même si on se rappelle la Première et la Deuxième Guerre mondiale, on a le jour du souvenir qui s'appelait Amnistris avant. Mais l'idée, c'est qu'on se rappelle ceux qui ont perdu leur vie dans le combat. Et quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, on a gardé la même date, même si ce n'est pas lié avec la Deuxième Guerre mondiale. Il y a quelques mois encore, on a entendu aux médias toutes les discussions qui parlaient de M. Poutine qui voulait terminer la guerre le 9 mai. Pourquoi? Parce qu'il y avait le jour de la victoire qu'il célèbre le 9 mai. Et tous les pays de l'ancienne Union soviétique vont se rappeler et se souvenir de ça. Et donc, en Ukraine aussi, le 9 mai, tout comme d'autres pays de l'ex-Union soviétique, on se rappelle du jour de victoire. Pourquoi? Parce que ce jour de victoire rappelle, contrairement à nous, dont la guerre était ailleurs, et qu'une partie de gens qui sont revenus avec des traumatismes de la guerre, eux, la guerre s'est faite dans leur cour, dans leur quartier. Si tu es ukrainien, Hitler a passé pendant 2 ans à travailler, puis à littéralement labourer le pays d'un bout à l'autre. Puis après ça, les Russes sont repris et ont relabouré 2 ans, 4 ans, à labourer d'un bord et de l'autre le pays d'un bout à l'autre. C'est pas pour rien qu'une ville comme Kiev pouvait avoir 900 000 personnes avant la guerre, 180 000 après. Imaginez. Et pour nous, c'est un peu abstrait. Mais vous voyez, tu vas dans une petite ville en Ukraine. Je me rappelle un jour avoir été dans une petite ville pour l'adoption de Noah, une ville qui était à 5 km des frontières russes à Soumy, un endroit qui a été envahi dans les premiers mois de la guerre, qui a été repris dans la région de Soumy. Et ce petit village-là avait un lieu de commémoration, justement, pour les gens qui sont morts dans la Deuxième Guerre mondiale. Le problème, c'est quand que je regardais le nombre de personnes qui étaient écrites sur tout ça, il y en avait presque autant qu'il y en avait de monde dans le village. Nous, on regroupe les gens morts en Europe, à quelque part, de notre armée, on regroupe ces gens-là. Mais là, imaginez, chaque ville a son lieu de sépulture de tous ces gens-là morts. Et la liste qui est faite, et tu réalises que le nombre est incroyable. On parle, par exemple, juste pour la Russie, c'était 9 millions de civils morts. Imaginez. Nous, le jour du souvenir invoque quelque chose. Mais quand on est dans un pays où le pays a été ravagé comme ça, le jour de la victoire évoque... Ce n'est pas pour rien que c'est gros pour eux. Parce que la souffrance est tellement grande que trois générations plus tard, la souffrance s'est transmise d'une génération à l'autre, hypothéquant l'autre génération de sa colère, de ses meurtrissures, de tout ce qu'elle a vécu. Alors, tout à coup, le jour de la victoire, c'est immense. Parce que le prix était immense, vous comprenez? Et pourquoi on fait ça? On ne veut pas oublier. On ne veut pas oublier pour ne pas faire les mêmes erreurs. Allez comprendre, hein? On est des humains. On est des humains. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que pour nous, le jour de la victoire, le triomphe du Seigneur Jésus-Christ, ça a une plus grande importance que ça encore. Le problème, c'est qu'on doit célébrer un jour de victoire par la foi dans l'avenir. Oui? On vient de lire le texte qui nous donne le jour de la victoire, le jour du souvenir. Pourquoi on devrait se souvenir du retour du Seigneur Jésus-Christ d'avance? C'est un peu bizarre. Tu le fais après. Et c'est pour ça qu'on a un gros défi. Le jour de victoire d'avance, c'est tellement difficile pour nous de l'absorber, de ne pas l'oublier. On doit le souligner et l'apprécier au même titre. Et la question est-ce qu'on est prêt? Je vais inviter l'équipe de louange à venir, on va prier. Est-ce qu'on est prêt ce matin à son retour? Évidemment, il y aurait tellement d'autres choses qui pourraient être dites, mais on peut en dire tellement plus et pourtant le défi demeure le même. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? On va terminer avec ce beau chant. Majesté, à lui la majesté. Et j'espère qu'on va le chanter et que peut-être il va s'enregistrer en nous avec une émotion plus forte que d'habitude. Peut-être avec cette scène de notre jour de victoire qu'on regarde d'avance, en le chantant aujourd'hui, il va rentrer avec une émotion plus forte qui va s'enregistrer en nous pour me rappeler qui je suis et que je veux me souvenir, je veux célébrer ce jour de victoire qui est déjà arrivé, mais qui pour moi, qui est sur terre présentement, c'est quelque chose que j'anticipe. Pourtant, difficile à être palpable. Quel défi! Prions le Seigneur et on va chanter ce chant. Seigneur, rencontre-nous ce matin, on regarde à ton retour et ça demeure toujours un défi, que ce soit 200 ans après ta venue, Seigneur, que ce soit 500 ans, que ce soit en l'an 1000 ou en l'an 2022, Seigneur, l'être humain vit un défi. C'est dur pour nous, avec tous les soucis de la vie, de rester focusé. On a besoin de ton aide, Seigneur. Aie pitié de moi, aie pitié de nous qui s'égarons si facilement dans nos passés, et Seigneur, que la louange soit dans notre bouche pour nous garder les yeux fixés sur toi. Que la louange soit là dans la semaine pour nous garder les yeux sur toi. Qu'on ait des moments d'intimité avec toi réguliers pour t'écouter, te parler, réfléchir ensemble, te remettre mes inquiétudes pour garder le focus. Et que chaque jour, Seigneur, je prends du temps avec toi pour me rappeler que tu reviens, que tu m'aimes, que tu as préparé des œuvres d'avance pour moi. Que tu as un plan pour moi et que tu ne veux pas que je gaspille ma vie, Seigneur. Parce que la vie passe si vite. Et que je le fasse, Seigneur, en gardant les yeux sur ta majesté. Oh oui, Seigneur, aide-moi à saisir ta majesté. Pardonne-nous de nos égarements. Et si quelqu'un ce matin, Seigneur, n'est pas encore prêt, réalise qu'il n'a pas encore donné sa vie. Seigneur, je te prie pour lui, pour elle qui combat, pour ce jeune homme, cette jeune femme, pour cet homme, cette femme mature qui assiste et qui reporte et qui sait dans son cœur que j'écoute, j'entends, mais je n'ai pas encore donné ma vie. Seigneur, je te prie pour ce combat, ce conflit à l'intérieur. Seigneur, rencontre ces obstacles, brise cet orgueil, brise ces objections, Seigneur, brise cette retenue inutile dans le cœur, alors qu'on a tellement besoin de ça. Et sans lequel je suis insatiable, insatisfait. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'aimerais inviter la personne qui vit ça, Seigneur, à dire dans son cœur, et tu peux le répéter après moi, Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je confesse que je vis trop souvent indépendant de toi. Je te demande pardon. Je veux croire en toi ce matin. Je te demande de pardonner mes péchés. Je les confesse. Je crois qui tu es, le Fils de Dieu, et j'ai peur de ton retour. Je veux être prêt. Aide-moi, Seigneur, ce matin. Je veux mettre ma vie en ordre. Aide-moi, j'ai besoin de ton aide. J'arrive avec mes sacs de poubelle, Seigneur, de ma vie. Je ne sais pas quoi en faire, mais toi, aide-moi. je vais te les donner. Je suis plus capable de les porter. Fais-le, s'il vous plaît, je te le demande. Dans le nom de Jésus. Amen.